Ça lit quoi ? Une émission littéraire de Radio Campus Paris, un lundi sur quatre, de 20h à 21h sur le 93.9 FM.
Au numéro 484 de la 14e rue de Brooklyn, une de celles qui borde Prospect Park, un immeuble de deux étages en apparence semblable à ses voisins, avec sa façade de pierre et sa volée de marches, renferme en réalité une sorte de trésor. Il s'agit des Lesbian Her Story Archives, les archives lesbiennes de New York, créées dans les années 1970 par un petit groupe de militantes lesbiennes, membres de la Gay Academic Union. Dans cette maison ouverte au public, des livres, des lettres, des photos, des objets, des articles de recherche sont autant de témoignages des existences lesbiennes et de leurs histoires. Ces archives sont au cœur du travail d'une de leurs créatrices, Joan Nessel, dont deux recueils ont été traduits en français et publiés aux éditions Hystériques et Associés et qui seront l'objet du book club de ce soir. Mais tout de suite, dans notre grand entretien, nous allons également parler d'existence queer, de mémoire et d'écriture, puisque nous avons le plaisir de recevoir Noah Truong pour parler de son livre « Et pourtant », paru en mars 2025 chez Paulette Éditrice. Bonsoir Noah.
Bonsoir.
On est très heureuse de t'avoir avec nous, et comme toujours dans l'émission, il y a Garance en plateau. Salut Garance.
Salut.
Nous sommes également avec Anna qui réalise l'émission et qui nous parle de l'autre côté de la vitre du studio. Salut Anna.
Salut.
Et enfin, il n'est pas avec nous, mais il nous parlera dans sa chronique du livre « Tengo miedo torero » de Pedro Lemebel, c'est évidemment Margot. Vous écoutez Saliqua sur Radio Campus Paris, c'est parti pour une heure.
Saliqua sur Radio Campus Paris.
Noah, après une première vie où tu es passé entre autres par Sciences Po et le journalisme, tu es désormais auteur de poésie. Tu as écrit « Manuel pour changer de corps » paru en 2024 aux éditions Cambourakis, ainsi que « Et pourtant » paru chez Paulette Éditrice en 2025. On peut également te lire dans des revues, des zines et dans deux ouvrages collectifs, « Esprit de résistance » aux éditions Segers et « Dustan, l'héritage » aux éditions Paulette Éditrice, et les deux sont parus en 2025. L'écriture n'est pas ta seule activité puisque tu es également artiste plasticien. Tu travailles là encore sur l'enfance avec la création en 3D de jouets qui évoque les questionnements qui traversent l'expérience de la transidentité dans l'enfance. Tout d'abord, merci d'être avec vous, avec nous.
Merci à vous.
Et merci d'être avec vous, les auditeuristes, ce soir. Alors, on va surtout parler de ce deuxième livre « Et pourtant », mais on va commencer avec ton parcours et ce qui t'a mené vers cette publication. Et justement, dedans, tu écris « Je tiens un journal intime, mais j'en arrache les pages de peur que ma mère ou ma sœur ne le lise ». Est-ce que ta pratique de l'écriture a commencé comme ça ?
Vous avez bien lu le livre. Ma pratique de l'écriture, je pense qu'elle a commencé à l'adolescence en écrivant des poèmes à ma meilleure amie dont j'étais amoureuse. Que je ne lui montrais pas, évidemment. Que j'en ne reconnaissais pas du tout forcément comme de la poésie. Enfin, je pense qu'il y a une question aussi de la légitimation de l'écriture et comment on arrive à légitimer sa propre écriture. Et finalement, cette pratique presque qui précède l'écriture littéraire, elle est souvent présente, mais beaucoup de gens écrivent mais ne se considèrent pas comme étant des auteurs, autrices, alors qu'en fait, ils le sont. Mais oui, effectivement, j'ai commencé à écrire beaucoup plus en écrivant des journaux. J'en ai écrit énormément. J'ai quasiment mes journaux de mes 16 à mes 26-27 ans, j'ai à peu près tout. Après, c'était plus un moyen quand même de souvenirs et de gestion émotionnelle aussi, et de pour me comprendre. Et ça a aussi accompagné ma formation intellectuelle, parce que souvent, j'avais un besoin de dialoguer avec les auteurs, autrices que je découvrais, de m'exprimer. En fait, je pense que ça vient de l'impossibilité de parler, qui était effectivement soit familiale, mais aussi sociétale, puisqu'il y avait quand même un tabou. Donc le lieu du livre ou du carnet, qui est quelque chose qui peut être fermé, a été un espace de liberté en fait.
Est-ce que tu reviens du coup dans ces carnets-là? Parce que j'imagine que ça doit être un témoignage aussi super de ton propre parcours.
Ça m'arrive de les regarder. En fait, ça m'arrive assez régulièrement de consulter certaines périodes de ma vie en me demandant qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et souvent, je suis assez surpris parce qu'on oublie. On oublie vraiment tout ce qui se passait. Après, il y en a beaucoup qui sont quand même qui attestent aussi d'une certaine. Enfin voilà, il y en a qui sont tout est hyper lyrique. Quand j'ai 20 ans, tout est hyper lyrique, hyper absolutiste, tu vois. Et après, ça devient beaucoup plus factuel. Enfin, tu vois, tu sens qu'au bout d'un moment, j'ai eu un peu la flemme et que je raconte beaucoup plus vite, quoi.
Ça devient une sorte d'agenda où tu notes un peu.
Maintenant, franchement, c'est juste du self-help, quoi. C'est genre, Noah, tu en es capable, tu vas y arriver, je t'aime, je te jure. Maintenant, c'est plus que ça.
Et
Et donc après être passé par Sciences Po et la Sorbonne, donc t'as fait un master de création littéraire à Paris 8. Et est-ce que c'est cette formation qui t'a permis justement cette légitimité dont tu parlais à l'instant? Bah,
en fait, je pense que de toute façon, oui, y a l'écriture littéraire passe par ces espèces d'étapes de légitimation par l'extérieur plutôt que par l'intérieur. Et finalement, j'ai toujours travaillé avec l'écriture, parce que même j'ai fait de la recherche à Sciences Po, donc c'était déjà de l'écriture, mais c'était de l'écriture...
Très différente, quand même. Ouais.
Bah, oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi, on te propose des formes d'écriture très codées, dans lesquelles, en fait, finalement, beaucoup de choses ne peuvent pas être dites. C'est même tout le principe, c'est que tu peux pas t'exprimer.
Tu parles pas au jeu.
C'est ça, t'as pas le droit de dire des choses que tu sais être vraies, mais que tu peux pas sourcer, tu vois. Et je pense que le master, oui, a quand même aidé, même si j'étais déjà quand même dans une logique professionnelle, au sens où j'ai travaillé seulement un an et demi en tant que journaliste, et après j'ai démissionné parce que je savais que je voulais écrire vraiment de l'écriture littéraire et que c'était pas ce que je voulais faire. Et j'ai pris un boulot qui me permettait d'écrire quasiment à plein temps. Mais finalement, je suis quand même resté 6 ans, donc pendant 3 ans avant le master, je faisais ça. Et je le faisais pendant le master, mais ça m'a aussi permis de lire beaucoup. Enfin, au-delà de l'écriture, finalement, c'est aussi le fait d'avoir du temps pour passer à la librairie, laisser des livres prendre énormément de place dans ta vie, ce qui, normalement, quand tu travailles, c'est juste pas faisable. Voilà.
Oui, en plus de la fatigue et de... Et puis même, enfin, là, tu parles de cette écriture-là, que ce soit universitaire ou même journalistique. Et le fait que ce soit des codes, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sclérosant aussi. Donc, quand tu écris par ailleurs...
Tout à fait,
et qui empêche presque l'écriture littéraire pendant.
Tout à fait, ouais. Bah, je pense que pour moi, ça a constitué un endroit important. Finalement, je pense que toutes les dispositifs de silenciation, finalement, ils se retrouvent, en tout cas par rapport à l'écriture, se retrouvent aussi dans le fait que comme on apprend à écrire à l'école, on apprend par
par
la notation, par la punition, par ce qui est de la littérature et ce qui n'en est pas. Et du coup, en général, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais tous les gens qui se disent qu'ils veulent écrire vont d'abord commencer à se dire qu'il faut qu'ils écrivent du Flaubert. Pour ensuite aller, ce qui libère, je pense, de l'écriture et ce qui légitime au-delà du fait de faire un master, c'est de créer sa constellation littéraire. C'est de se rendre compte que ton écriture a aussi son histoire, même si c'est pas l'histoire forcément qu'on t'a enseigné à l'école. Et que si tu trouves, parce qu'il y a des personnes qui ont écrit, pas forcément comme toi, mais en écho à ce qui t'intéresse.
Oui, interlocuteurs, interlocutrices.
C'est ça.
Et toi, tu dirais que c'est qui?
Justin m'a beaucoup influencé, c'est vrai, mais en fait une période de ma vie qui a quand même été très importante, c'est quand je suis parti à Taïwan pendant mes études, parce que déjà c'était l'année du mariage pour tous, donc moi j'étais pas en France, mais j'étais très... c'était l'année de mon coming out lesbien, enfin j'ai passé, en gros je suis parti en me disant je peux pas faire mon coming out en France... Il y a toujours ce voyage que beaucoup de gens font quand ils doivent se transformer, parce que loin de chez toi, c'est plus facile. Et en fait, ce qui s'est passé à Taïwan, c'est qu'il y avait, vu qu'ils ont des accords avec les universités américaines, il y avait toute une bibliothèque, mais à l'américaine. Du coup, j'ai pu lire tout ce qui est épistémologie du placard, énormément de théories queer qui n'avaient pas été... Bah oui, là, je lisais en anglais, mais même, je suis pas sûr que c'était dans la bibliothèque à Paris. Enfin, je sais pas, tu vois, mais je me serais jamais permis d'aller voir à Sciences Po. Alors que là, il y avait personne. Je suis allé juste à l'endroit, tu vois, où j'ai lu Hélène Cixous et compagnie. Et je pouvais emprunter en me disant, mais ici, personne va me surprendre. Et en fait, on oublie à quel point on en était là, quoi, à ce truc de oser aller au rayon de la bibliothèque et choisir des livres. Donc là, j'ai lu énormément de choses. Mais après, sur l'écriture, un blog qui a beaucoup joué un rôle pour moi, c'est, j'ai lu aussi beaucoup. Par exemple, je prenais les anthologies de nouvelles américaines, les meilleures anthologies, j'ai lu Raymond Carver, enfin j'ai un peu pris tout et n'importe quoi. En gros, j'étais vraiment dans une année de... Je me nourrissais de tout ce que je trouvais. Mais il y avait un blog qui existe toujours, un blog lesbien qui s'appelle Autostraddle. Je pense que ça fait de moi une personne âgée. mais en gros, c'était un peu un des premiers blogs lesbiennes à l'époque à l'américaine. Et ils avaient une section littérature. Ils avaient fait notamment une série d'articles sur la poésie lesbienne. Du coup, t'avais Mary Oliver, mais t'avais aussi... C'était pas que des lesbiennes, t'avais aussi Jack Spicer, t'avais plein d'auteurs, autrices américains-américaines qui avaient une forme parfois beaucoup plus parlée, beaucoup plus libre. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours senti un peu plus proche de cette liberté de la littérature américaine. Même, je pense que j'ai quand même été très influencé par la Beat Generation, par John Fante, par, effectivement, finalement, même du temps, il est totalement américain dans,
oui,
son,
oui,
dans sa forme
d'écriture. C'est pour ça d'ailleurs que la réception a été si tardive aussi, pour du temps.
Sans doute, ouais. Mm. Au-delà du fait que c'est vrai que c'est un personnage controversé.
Oui, mais, oui, ouais. Et oui, polémiste, enfin, il le fait aussi à dessein, quoi.
Oui, oui, tout à fait, ouais. Mm-hmm. Mais il le dit lui-même que c'est vrai que des textes American Psycho, par exemple, lui, il était hyper influencé par American Psycho. Moi, j'ai quand même un regard, je pense que c'est un livre extrêmement misogyne. Mmh. Et on ne peut pas juste l'oublier. Mais en tout cas, en termes de ce type de littérature très matérialiste aussi, qui va vraiment se jouer un peu de la consommation, qui va... Mais après, je suis aussi influencé dedans. Et pourtant, des gens comme Georges Perec m'influencent aussi.
Bah,
des gens
on en parlait tout à l'heure, ouais, ouais. Anne Garreta, justement, qui avait écrit sans...
Oui, Sphinx, tout ouais. à fait. Oui, bah, Sphinx m'a bien sûr influencé. Bah, en fait, j'ai très vite... j'ai lu Monique Wittig, j'ai lu Anne Garreta. Enfin, finalement, j'ai lu un peu... Violette Leduc, enfin, ce qui était un peu les monuments lesbiens français, françaises plutôt. Et j'ai compris, en tout cas c'est sûr que j'ai été très influencé par l'idée de Monique Wittig, mais qu'on retrouve chez Gramsci et compagnie, de la comment on s'appelle, l'espèce de faire rentrer finalement de un rayonnement culturel, c'est-à-dire de produire une contre-culture et d'essayer de rentrer dans la culture dominante pour y insérer un autre sens. Et que finalement, quand Monique Wittig dit « Le monde est un texte et on peut intervenir sur le monde à travers le texte », moi j'étais en mode, c'était mon programme politique.
Okay, là, tu le mets dans ton exergue, la citation de Monique Wittig, « L'action du langage sur le corps est continue ». Elle écrit ça dans le Chantier littéraire,
c'est ça, voilà.
Paru en 1986. Et finalement, c'est assez central, cette idée, que parce qu'il y a le « en continu », donc ça veut dire qu'on le subit, mais aussi, grâce à la littérature, on va pouvoir... transformer ça.
Le parce transformer, que le, c'est ça.
Par le langage, par la littérature.
Ouais. Bah, je pense que quand
même. Il y a un jeu qui se fait.
Oui, un jeu réciproque. Mmh. Mais je pense que des textes, quand même, comme Le corps lesbien, ça m'a vachement impressionné. Parce qu'en fait, c'est une littérature ultra expérimentale qui est vraiment interventionniste.
Très dense. Ouais,
hyper dense.
De, ouais.
Et en même temps, je faisais un cours de Postcolonial Studies, ce qui en France n'existait pas.
Surtout en 2013.
Voilà,
du
c'était
coup.
Vraiment, c'était loin d'être le sujet. Et notamment, j'ai pu lire des auteurs, et notamment un auteur qui s'appelle Omi Baba, qui est un espèce de monstre sacré de la théorie postcoloniale, c'est un critique littéraire. Qui avait vraiment théorisé ça, en fait, qui avait théorisé le fait qu'un texte pouvait être un lieu de rencontre entre deux significations en concurrence, et que on pouvait, à l'intérieur d'un texte ou d'une œuvre d'art, renverser le sens et donner la prédominance à un autre. Enfin, finalement, l'idée, c'est vraiment que tu pouvais transformer la culture, et en transformant la culture, tu transformes la société. Enfin, en tout cas, c'est là qu'il faut agir. Donc moi, j'étais vraiment dans un programme presque un peu... j'ai envie de dire militaire, mais au sens où, enfin, c'était aussi, on était en lutte. Enfin, c'était quand même à l'époque être queer de façon générale. On disait pas queer, mais c'était vraiment un combat, quoi. Donc moi, c'est vrai que je me suis quand même inscrit, même avec Manuel pour changer de corps, et pourtant, mais surtout et pourtant, dans une logique vraiment interventionniste, d'être dans une action littéraire, mais qui est une action en fait. Qu'est-ce que le texte fait plutôt que ce qu'il dit?
Et donc il y a la question de la forme qui est hyper importante dans ce que tu dis, et dans le manuel pour changer de corps qui est paru aux éditions Cambourakis en 2024, c'est une forme qui est proche du journal autobiographique, mais il y a aussi des textes plus conceptuels. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
et
pourquoi ce texte?
En fait, c'est un texte que j'ai écrit presque sans vraiment me rendre compte que je l'écrivais. Enfin, c'est un moment où même j'avais abandonné l'idée d'écrire parce que j'étais en année de césure du master. J'étais à nouveau parti parce que je me sentais pas bien là où j'étais. Enfin, je sentais que j'étais un peu dans une impasse. Et c'est quand j'ai abandonné finalement l'idée d'écrire au sens de vouloir écrire, quand on dit écrire, c'est, tu sais, publier et compagnie, que j'ai commencé spontanément. Et vraiment, j'ai eu un moment de rejet total où je pensais même que l'écriture n'avait pas d'importance, que c'était un rapport au monde qu'il fallait abandonner.
Mais parce que ça, c'était en lien avec le fait d'être dans un microcosme avec que des gens qui veulent écrire?
C'était plutôt, je vivais un deuil assez important, et dans le deuil, souvent, beaucoup de choses qui sont importantes paraissent n'avoir aucune forme d'importance. notamment la volonté d'exister en tant qu'auteur, la volonté de se distinguer. Enfin, en fait, ça m'a éloigné des gens et j'étais dans un pays dont je parlais pas du tout la langue. Donc j'étais dans une forme de silence très particulier où j'étais vraiment dans un état de deuil très important. Mais en fait, ce qui est revenu justement, c'est la recherche de la beauté. Parce qu'en fait, en tout cas, dans ce moment de perte de tout ce qui est quelque chose qui a été très important pour moi et qui m'éloignait de la vie, ce qui a fait que j'ai retrouvé un peu le chemin de la vie, c'est la beauté. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, par exemple, mes premiers poèmes avec cette langue-là, c'était un vallon, et puis il y a de la lumière, et puis il y a un chat qui passe au milieu, et en fait c'est beau, et du coup je vais écrire sur ça. Et je me disais, c'est ces choses minuscules qui vont me redonner, enfin je sentais que ça allait c'était le chemin que je devais suivre pour me ramener vers la vie. Et du coup, ce livre parle spécifiquement de transition. J'ai effectivement gardé plutôt ces poèmes, mais en fait, de cette période, il y a aussi un ensemble de textes qui parlent aussi juste du fait de suivre les chats, c'est-à-dire devenir un chat, c'est-à-dire la vie des chats, c'est finalement aller d'un endroit au soleil à un autre. Enfin, c'est aussi une période assez, je sais pas, où j'étais plus dans une identité sociétale comme je le serais si j'étais en France et que tu es dans un réseau. Enfin, mais bon, après, effectivement, je l'ai écrit. Ce que j'en ai fait, c'est quand même un texte qui est un manuel poétique pour aussi le léguer, entre guillemets, avec humilité, pour des personnes qui allaient vivre les mêmes transformations et que je savais que ça pouvait les accompagner parce que moi aussi j'en avais besoin.
Ça poursuit aussi l'idée de l'écriture comme forme d'action avec l'idée de la transmission.
Oui. Ben, pour moi, les livres m'ont clairement sauvé la vie. Enfin, si j'avais pas eu les livres aussi bien dans mon enfance que... En fait, c'est par les livres que j'ai accepté, que je me suis accepté et que j'ai pu trouver de la force. Parce qu'en fait, les livres, c'est comme rencontrer des gens qui étaient là avant toi et qui ont déjà dit des choses, mais en plus avec force.
Oui, ça, parce que l'écriture, il y a quelque chose de condensé ou...
Ouais, bah c'est un peu, enfin c'est vrai
que on a accès à une intimité très particulière qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours.
C'est ça. Bon, on l'a quand si on est des gens très intenses et que tu peux avoir des conversations hyper intenses avec les gens tous les jours, mais c'est difficilement tenable. Et notamment, je me souviens qu'une deux autrices aussi qui m'ont beaucoup influencé à Taïwan, c'était quand même Audre Lorde et Kyu Miaojin, qui est une autrice taïwanaise qui a écrit deux livres ultra déprimants, mais qui avait quand même une force particulière.
Merci, on va continuer à parler d'écriture avec toi dans un instant, mais on va écouter une petite musique d'abord. Yeah, 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 yeah. Un día se prendió mi querer por ella. Yo la veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que se la quiero para mí. Yo quiero una faire. Un día se prendió mi querer por ella. Yo la veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que se la quiero para mí. Yo quiero una faire. Nos vamos al campo, solo buena onda. Es lo que tenemos las dos. Solo buena onda. Me llevas en un coche sin techo. Soy tu amuleto. Tú tienes un dolor en el pecho. Soy tu amuleto. Me gustaría que mi estado civil no cambiara tanto en tan poco tiempo. Ya no hay nada que yo pueda sentir que me haga algo que me quepa dentro. Yeah, 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 yeah. Que me haga algo que me quepa dentro. Se prendió mi querer por ella. Yo la veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que solo quiero para mí. Yo quiero una faire. Un día se prendió mi querer por ella. Yo la veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que solo quiero para mí. Yo quiero una faire. Tengo la misma sensación que cuando tenía 10 años. Creía que sabía, pero no. Yo solo tenía 10 años. Tengo la misma sensación que cuando tenía 10 años. Creía que sabía, pero no. Yo solo tenía 10 años. Yeah, 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 yeah.
que me ha algo que me quepa dentro. Que me ha algo que me quepa dentro. Un día se prendió mi querer por ella. La veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que solo la quiero para mí. Yo quiero una faire. Un día se prendió mi querer por ella. La veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que solo la quiero para mí. Yo quiero una faire. Un día se prendió mi querer por ella. La veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que solo la quiero para mí. Yo quiero una faire. Un día se prendió mi querer por ella. La veo linda y la llevo a tomar el aire. Un rayo de luz en mi cara que solo la quiero para mí. Yo quiero una faire.
C'était Jimena Amarillo, Yo Creo, Yo Quiero Una Faire sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Sali Quoi.
Sali Quoi ? Sali Quoi ? On a dit Sali Quoi les filles sur Radio Campus Paris.
Et nous retrouvons Noa Truong pour parler de son livre Et pourtant. On va poursuivre notre échange dans un instant. Mais je vous ai annoncé une fausse information car tout de suite c'est l'heure d'une rubrique qui nous avait manqué. C'est la chronique de Margot. Et aujourd'hui il nous parle de Tengo Miedo Torero de l'écrivain chilien Pedro Lemebel, paru en 2001. On écoute ça tout de suite.
No me vengas con la historia de la indolencia.
Santiago, 2001. La salle est bondée de journalistes et de politiciens guindés. Soudain, il entre. Pedro Lemebel. Robe pourpre, coiffe de plumes, le regard fier. Il vient présenter Tengo Miedo Torero, J'ai peur au matador en français. Pour comprendre ce livre, il faut remonter 20 ans en arrière. Santiago est alors une ville quadrillée. Sous les bottes de Pinochet, la peur est partout. C'est là que Lemebel, avec son complice Francisco Casas, fonde les Yegas del Apocalipsis, les juments de l'Apocalypse. Leurs performances artistiques défient le régime, mettent en lumière les minorités sexuelles et dénoncent le silence de l'État face à la crise du VIH. L'histoire de Tengo Miedo Torero débute en 1986, dans le Chili de Pinochet. Celle que tout le monde surnomme la folle du front vit dans un quartier pauvre de Santiago. Elle a quitté la prostitution il y a quelques années et brode des nappes raffinées pour de riches clientes. Un jour, la folle du front rencontre Carlos. Il est beau, jusqu'à preuve du contraire, hétéro et révolutionnaire. Il cherche un endroit pour cacher des cartons. Elle accepte, par béguin pour son nouvel ami, et fait semblant d'ignorer qu'ils sont chargés d'armes. Pinochet est l'autre personnage principal du roman. Sous la plume de Lemebel, il est nerveux, faible et irritable. Il s'acharne à éradiquer les homosexuels de son armée, mais les queers sont partout et il découvre que ses lieutenants se font les yeux. Quand il rentre chez lui, il se fait harceler par sa femme, écervelée et vaine, qui critique ses choix vestimentaires. Tengo Miedo Torero devient une histoire politique rocambolesque. Le beau Carlos fait partie du front révolutionnaire Manuel Rodriguez. L'amour de la folle du front l'entraîne vers une tentative de coup d'État.
Tengo miedo, torero.
Les informations lugubres de la radio révolutionnaire alternent avec des chansons à l'eau de rose, et l'histoire culmine lorsque le front tente d'assassiner Pinochet. Pour Lemebel, le kitsch est politique.
Merci Margot pour cette chronique. Vous écoutez toujours Sali Quoi sur Radio Campus Paris et on est avec Noa Truong. On enchaîne. On parlait juste avant la pause musicale et la chronique de Margot d'écrire pour aussi transmettre. Et on parlait de ton premier livre Manuel pour changer de corps.
Ouais. Et de changer de corps, il en est aussi question dans Et pourtant, qui est aussi un livre de poésie. Est-ce que tu es d'accord avec cette classification ? Et pourquoi ?
Oui, ben, je pense que c'est même moi qui l'a imposé, entre guillemets, enfin, qui en l'a décrit comme ça. Parce qu'en fait, l'idée de recueil, ça suppose quand même une forme en vers, un peu pyramidale, enfin, comme on a l'habitude. Et là, c'est un livre en prose, c'est pas un recueil, parce qu'en fait, c'est comme un très long poème, mais il y a quand même une dimension narrative, donc c'est un livre de poésie.
Et avec une forme très particulière, parce que moi, je me suis plusieurs fois posé la question de pourquoi des slashes partout, parce que moi, dans mon idée, les barres obliques, c'est quand on écrit, par exemple, une citation de poésie, et qu'on ne fait pas les retours à la ligne.
C'est vrai que je n'avais même pas pensé à ça.
Ou à la radio, c'est quand on respire, par exemple.
Ouais. Oui, en fait, c'est des codes aussi. Effectivement, c'est des codes, c'est presque comme une partition. Mais là, c'est une expérimentation sur le texte aussi qui a fait que j'arrivais à ça. Parce que tout le problème que j'ai eu avec ce texte, c'est que les personnes qui le lisaient avaient l'impression que c'était un récit. Alors que c'est pas du tout un récit, c'est une accumulation poétique. Du coup, l'idée, c'était de...
Moi, ça m'a fait beaucoup penser au départ, parce que c'est très différent, mais à l'autoportrait d'Edouard Levé.
Bien sûr. Bah, j'adore Edouard Levé. En fait, c'est même en lisant... c'était une époque où je lisais beaucoup notamment, j'aime beaucoup Edouard Levé, parce qu'il a beaucoup d'humour. C'est un artiste conceptuel, mais qui va aussi questionner ce que c'est que les formes littéraires. Par exemple, l'autoportrait. Finalement, il en ramène. Il y a une grande correspondance entre la forme et presque une image visuelle qu'on se forme de lui... après qu'il ait raconté 150 pages de choses qui n'ont aucun intérêt sur lui.
Oui, comme ça, d'accumulation. Voilà.
Par aussi, du coup, c'est très drôle.
Et c'est très dynamique aussi.
Très dynamique. Mmh. Et moi, c'est le genre de littérature que j'adore. Et du coup, effectivement, je me suis beaucoup inspiré d'Edouard Levé, mais aussi de le texte d'Annie Ernaux, La femme gelée. Parce que c'est un texte qui m'a énormément... comme toute l'œuvre d'Annie Ernaux, évidemment, j'ai trouvé ça incroyable. Mais je me souciais depuis toujours... Enfin, en fait, j'ai quand même l'impression d'avoir grandi dans une très grande conscience de ce que je recevais comme signaux de genre, aussi bien notamment dans la culture de façon générale. Ce que les autres envoyaient. En fait, pour moi, le genre, c'est... je suis pas théoricien, je suis poète et j'ai choisi avec... j'ai choisi poète justement pour pouvoir dire des choses et ensuite me contredire le lendemain. Mais je pense que, en tout cas, la dimension du genre qui est relationnelle, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça, finalement, dont parle et pourtant. C'est comment le genre se négocie, en fait, dans des transactions relationnelles qui passent par... des actions, des façons de bouger, des façons de parler. Dans la dimension de la femme gelée, c'est pas forcément ça, mais enfin, elle en parle un peu, mais c'est aussi comment finalement elle est formée en tant que fille puis de femme par la société et quelle part d'agentivité lui est restée. Donc je voulais à la fois retracer cette formation de genre des années 2000 et montrer une performance de genre.
Parce que peut-être pour revenir un petit peu sur la forme, pour expliquer aux auditoristes aussi qui n'ont pas forcément vu le livre ou l'ont pas forcément sous la main, c'est vrai que toutes les phrases sont séparées par un slash et le livre est en deux parties, séparées par cette double page et pourtant, avec des souvenirs recomposés d'une enfance trans en deux temps, avec une première partie qui dépeint un toit plus masculin, avec des figures... de héros, des figures de guerriers, de chevaliers, et une seconde partie où le jeu essaye de se conformer beaucoup plus au code féminin. Et donc, est-ce que ce texte, c'est un peu une espèce de démonstration vraiment formelle de la binarité qu'on peut ressentir ?
J'étais en train de réfléchir, j'y réfléchis comme une équation, c'est-à-dire qu'en fait l'idée des slash c'était aussi de faire en sorte qu'on puisse prendre chaque phrase et finalement prendre une phrase, n'importe quelle phrase de la première partie et la mettre face à n'importe quelle phrase de la deuxième partie et créer cette sensation de paradoxe. Donc finalement c'est un texte qu'on peut vraiment démanteler, reformer, enfin voilà, je voulais accorder cette liberté.
Mais presque non, je pense aussi pas faire apparaître les coutures, parce qu'il y a quand même quelque chose de la fabrication, non ? Pas du tout.
si, quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, la dimension esthétique du texte m'importe toujours. Enfin, je voulais quand même que ça crée un dynamisme dans la narration qui était important, alors que le point, c'est une respiration. Là, on n'appelle pas à une respiration, on appelle plutôt à une accélération. Mais en tout cas, je pense pas que c'est quand même pas qu'une recherche formelle, au sens où, enfin, c'est pas autobiographique au sens où il y a des choses dont je me suis inspiré, mais c'est comme quand tu prends un corps et que tu fais, si tu le découpes en tranches comme dans les planches anatomiques, ce que tu vois, c'est pas le corps, c'est pas la personne. Tu vois une tranche anatomique de son intérieur. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui fait aussi cet effet un peu d'hystérisation de la masculinité et de la féminité, puisque j'ai gardé finalement de ma vie que ce qui aurait été jugé stéréotypiquement masculin. Mmh. Du coup, par l'effet d'accumulation, ça crée un effet presque un peu angoissant, en fait, notamment sur la première partie de masculinité, mais c'est aussi la façon de le tourner, c'est-à-dire comment on raconte. Mais non, je pense qu'il y a quand même une dimension, je voulais quand même raconter. Moi, je pense qu'une part importante de mes questionnements littéraires, c'est comment parler de soi quand notre intimité est tellement envahi en fait par des discours, par des regards extérieurs. Et comme moi je refuse ça, je peux pas, je pense pour l'instant, je crée des dispositifs qui sont assez impersonnels. Parce que finalement les choses que je parle que je raconte de moi-même, c'est des choses communes à tout le monde. C'est des expériences collectives au sens où même si ce personnage qui sort de cette narration complètement déloulou dans la première partie est évidemment assez particulier. Mais finalement, ce que j'ai gardé, le but est que même des termes, c'est presque pas des phrases, mais plutôt des termes comme les termes d'une équation, des personnes, parce qu'elles ont fait les mêmes expériences de genre, parce qu'on est de la même génération, s'y retrouvent en fait. Mmh. J'ai gardé ce qui était commun en fait, comme Annie Arnaud dans les années. Il y a cette démarche ethnographique plus que personnelle. En fait, de fait, j'en viens quand même à raconter certaines choses qui sont personnelles, parce qu'elles me sont importantes et que je choisis de les raconter. Mais je voulais, ça c'est la première partie. Après, c'était quand même vraiment un texte d'intervention. Enfin, l'idée c'était vraiment de répondre à un moment, parce que je l'ai écrit à 7 ans. Après, je l'ai beaucoup repris, je l'ai beaucoup défendu, mais vraiment l'initiative de ce texte était à 6-7 ans. Et on était quand même vraiment dans les débats sur la théorie du genre. C'était vraiment l'année de la théorie du genre. On disait théorie du genre à toutes les sauces. Là, ça c'est il y a une petite pause. Et
c'est vrai que ça
c'est un peu calme. On parle d'autre chose. Mais et du coup, je voulais répondre à cette espèce de discours un peu pâte à sel là, qui n'avait pas de consistance, en créant. Je voulais montrer déjà que dans beaucoup de textes, notamment, je me souviens, c'était l'année. J'étais encore journaliste et j'avais écrit un article. J'avais lu tous les prix littéraires de l'année et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas un seul livre qui passait le test de Bechdel. Et qu'en plus, mais c'était tellement nul que vraiment, j'en pleurais, vraiment. Enfin, c'est pas que c'était mauvais d'un point de vue formel, mais c'était vraiment le male gaze où t'en lis un, tu en lis trois, t'en lis quatre, t'en peux plus.
Mais imaginaire très étroit, quoi.
Un imaginaire très étroit et les personnages féminins étaient extrêmement, extrêmement petits en fait. Tu vois, la pauvreté de la façon dont ils genraient les personnages, ça me donnait envie de pleurer. Et je voulais montrer que dans un texte, on peut genrer un personnage sans même utiliser la grammaire, juste en utilisant des stéréotypes. Et c'est comme ça qu'on genre dans la littérature en fait. Et c'est très très rare de rencontrer des textes qui arrivent à. Peut-être que maintenant c'est un peu plus le cas, mais je pense à notamment un texte de Murakami où pendant toute la première partie du texte, tu penses que c'est un personnage masculin. Et tout d'un coup, il dit, mais en fait, je suis une femme. Mais en fait, on rencontre jamais ça, c'est-à-dire cette intelligence de la. Parce que c'est comme un film, c'est-à-dire ouais, comment tu montres, qu'est-ce que tu montres. Et là, il accepte en littérature de créer cet effet de déciment en fait, du regard, où tu penses que tu sais et en fait, tu sais pas. Alors que souvent, dans des mauvais livres, tu sais direct. Il va te dire, elle avait une jupe, elle avait l'air d'avoir passé ses études à servir des bières, la tristesse dans ses yeux. Tu peux plus lire ça. Moi, je peux plus. En fait, c'est la mauvaise littérature. C'était aussi un geste contre ça. Okay.
Et tu parlais, donc il y a un instant, de cette construction avec des phrases, avec un peu un objectif que les phrases se répondent. Et du coup, il y a un passage en particulier, deux passages qui se répondent. Donc, on propose de le faire entendre aux auditoristes.
J'affiche mon mépris pour les flirts. Je taxe l'amour d'ânerie féminine. Je fais mine de m'éloigner quand une fille raconte son amourette de vacances. Quand un couple d'élèves de troisième se roule une pelle, je n'en perds pas une miette. Je suggère des jeux de docteur et de mariage à ma voisine de classe Charlie. Je me porte chaque fois volontaire pour incarner le marié. Je prends Charlie par le bras et je l'emmène devant la cheminée comme s'il s'agissait d'un hôtel. Avant de soulever le sac plastique qui lui sert de voile, je la laisse me coller du scotch sur les lèvres. Je penche mon visage vers celui de Charlie et tourne ma bouche contre la sienne en fermant les yeux. Au seul contact de ses lèvres, je sens que tout mon corps se liquéfie. Mes mains ne la touchent pas, mais l'air entre ma peau et la sienne est sensible. Je sens mon sexe battre comme un autre cœur et je prie pour que personne ne le remarque. De l'autre côté de la pièce, Michel demande si ce sera bientôt son tour et je réponds que non. Quand je dors chez Charlie, c'est sur un matelas posé au sol à côté du sien. Avant d'éteindre, il m'arrive de gémir que j'ai mal au dos pour proposer une séance de massage. Je m'assieds d'abord à genoux sur le lit, mais je grimpe ensuite à califourchon sur ses fesses. Je prétexte que mes mains accrochent le tissu pour relever son t-shirt sur sa nuque. J'ai envie d'embrasser son dos, de me coller contre elle, mais je me retiens. C'est avec une parfaite acuité que je ressens le poids de mon corps sur le sien. Et pourtant, en observant Charlie bouger, rire, se vêtir et se maquiller, je lui envie cette science infuse. Je cherche en moi les élans vers les mêmes passions qu'elle. J'imite parfois dans son sillage les plus souples de ses gestes. La nuit, je formule des vœux et des souhaits pour m'éveiller à son image. J'imagine le bonheur qu'il y aurait à être absolument semblable aux autres. Un matin, j'enfile une jupe violette à volant pour aller au collège. Le compliment d'un garçon me déstabilise et me réjouit. Charlie va retrouver Denis, un élève plus âgé du collège. Je m'arrange toujours pour en être. Je la suis avec lui jusqu'au cinéma et au square Mignette. Au regard qu'elle me jette, j'ai conscience qu'elle veut que je les laisse en tête à tête. Mais quelque chose en moi m'en empêche.
Merci beaucoup. Et donc cette partie était dans la première partie.
Les deux. Avec le « et pourtant », enfin, c'est en fait quand oui, il y a le « et pourtant » qui est au milieu du livre. Ouais. Et donc là, tu le, enfin, c'est moi, je me suis rendu compte quand tu le lisais qu'en fait, on peut le placer à tout moment, quoi, et que, enfin, pour passer de l'un à l'autre.
C'est ça. En fait, là, j'ai pris la liberté de dire « et pourtant » au moment où je
oui,
passe d'une partie à l'autre. C'est ça. Mais effectivement, c'est une sorte d'appel à jouer aussi avec ce texte. En fait, c'est un texte, je trouve, qui peut être malaxé au sens où on peut le découper, le recréer. Parce qu'en fait, finalement, j'ai fait le récit d'une sorte de non-binarité poussée ou d'une transidentité poussée à même l'extrême de la cohabitation, mais sans parler de la cohabitation. C'est-à-dire que je force à lire d'abord comme si on séparait quelque chose qui est une seule chose
et on le revit
d'abord,
deux
tu
fois.
Ça. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai effectivement créé un.
C'est un peu comme les 10 000 milliards de poèmes où tu peux. De quenots avec tous les petits bouts de papier que tu peux recomposer à l'infini, en fait. Tu peux. C'est super.
Et parce que même, je me rappelle que j'étais frappée de voir qu'il y avait même des tronçons de phrases qui revenaient comme ça, qui sont. Ouais. Comme des, et pour le coup, il y a certaines qui ne changent pas là où tout a changé dans la perception qu'on a du personnage.
Un des enjeux du texte, c'est quand même de créer un trouble. C'est-à-dire que dans toute la première partie, on va se dire que c'est forcément un garçon, que c'est forcément un homme, qu'il y a une dimension forcément agressive, qu'il y a quelque chose de même d'angoissant, de malaisant, de violent. Et en fait, en retournant la perspective et en laissant parler finalement la partie souffrante, en fait, aussi, qui est la partie de la... Parce que la première partie est beaucoup autour de l'imagination. C'est beaucoup autour de l'intériorité, de la projection. Et la deuxième partie, qui est dans finalement la réalité de ce qui se passe, on relie les choses différemment. Même la partie que je viens de lire là, avec, par exemple, le truc de faire des massages à ses copines, etc., ça parle aussi de toute la sexualité crypto-lesbienne des jeunes années, où t'es toujours amoureuse de tes meilleures amies, et réciproquement, mais y a pas de mots qui sont posés sur ça. Et c'était un peu pour, finalement, que le lecteur ou la lectrice, à la fin, se dise « mais en fait, t'y reviens ». C'est-à-dire que tu te dis « ah mais oui, mais en fait, finalement, c'est... » Ces interactions-là, je les ai vécues. Est-ce que moi aussi, j'ai pas cherché à m'incarner dans une forme de, c'est pas de masculinité, mais de genre non binaire, en fait. Parce que les catégories binaires ne nous contiennent pas. Elles échouent de toute façon à nous contenir, quoi.
Oui, et puis on est vraiment aussi avec le regard de la narratrice qui, enfin, où il y a beaucoup cette posture d'observation, de savoir si on désire l'autre ou si on veut être l'autre. Enfin, il y a ça, tout ce jeu qui est,
ouais. Ouais, c'est vrai.
Ce qui est vraiment bien fait. Et donc, le corps est quand même au centre de ces deux parties. Et notamment, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était les passages avec les jeux vidéo et la manière dont les avatars, en fait, permettent de vivre une vie entre réel et fantasme, mais qui n'est pas possible encore dans la réalité parce que du fait de la honte ou peut-être du fait aussi d'absence de représentation. Ouais. Et où en fait même la sexualité s'explore à travers le jeu vidéo, puis presque dans la vraie vie parce qu'il y a quand même une rencontre avec... Donc ça devient un peu glauque à un moment où...
Bah, je pense que c'est un texte quand même qui parle aussi de souffrance. Enfin, en fait, il y a une dureté dans l'expérience de ce personnage. Mais effectivement, c'est la question de la persona, en fait, et de comment est-ce que tu peux...
habiter un autre corps.
Habiter un autre corps, même quand tu peux pas. Et je pense que l'imagination joue un très grand rôle. Et en même temps, effectivement, tout ce qui te permet de t'inventer. Et notamment, une partie qui m'a quand même beaucoup intéressée, c'est la question de l'enfance et de la cour de l'école. Et vraiment, je pense et je me souviens, et je pense que c'est pas du tout une expérience qui ne concerne que moi, mais que c'est vraiment un endroit où finalement, il y a beaucoup de liberté de genre. En tout cas, on peut être un garçon manqué et compagnie. Pour les garçons, c'est plus compliqué parce que je pense qu'il y a une punition immédiate si t'es pas dans une masculinité classique. Mais que dans la cour de l'école, le genre, c'est plutôt un statut social qu'un genre sexué, parce qu'il n'y a pas de sexualité. Ouais. C'est un peu un côté, si tu sais gagner contre les garçons, bah finalement, t'es pas vraiment une fille. Et c'est ça dont je parle. C'est finalement comment est-ce que, en te plaçant dans une certaine hiérarchie genrée et en te comportant comme un garçon, tu peux presque en devenir un, en fait. Après, bien sûr, la réalité te rattrape. Ouais. Mais en tout cas, à cet âge-là, voilà. Ouais.
Et justement, le livre, il le montre très bien, le passage à l'adolescence aussi, avec la deuxième partie où il y a tout ce truc très social des filles au collège et au lycée où on essaie de mimer un peu ce que font les autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le livre aussi. Mais d'ailleurs, c'est marrant, en vous entendant parler de jeux vidéo, je me rends compte que ça fait quand même plusieurs fois dans cette saison où il y a des histoires d'avatars, de jeux vidéo, et je me dis, mais est-ce que c'est un truc commun à toutes les écritures queer ou je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose à élucider, on pourra peut-être faire une émission spéciale jeux vidéo. Malheureusement, c'est la fin de cet échange. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Noah, c'était super de parler avec toi.
Merci beaucoup à vous.
Pour rappel, ton livre est pourtant paru chez Paulette Éditrice et disponible en librairie, ainsi que ton précédent livre, Manuel pour changer de corps, qui lui est paru aux éditions Cambourakis. Alors foncez le lire, c'est vraiment super. Et restez avec nous sur Radio Campus Paris. Dans un instant, c'est le Book Club dans Salicoa. Grace Ives sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours Salicoa jusqu'à 21h.
Salicoa sur Radio Campus Paris.
En introduction de cette émission, j'ai évoqué les archives lesbiennes de New York, les Lesbian Her Story Archives. Et parmi les membres fondatrices de ces archives communautaires, il y en a une qui s'appelle Joan Nessel, qui a écrit de nombreux textes. Poétiques, fictionnels, érotiques ou historiques, son écriture prend pour objet l'identité et les luttes lesbiennes. Et elle est une défenseuse de la dynamique butch-femme et d'une action dans les marges. Joan Nessel écrit sur l'intime, y compris son histoire personnelle et celle de sa mère. Une partie de ses textes ont été traduits en français par Christine Lemoine, qui est la fondatrice de la librairie Violette & Co., une librairie lesbienne très connue. Et Noémie Grunenwald est publiée sous la forme de deux recueils aux éditions Hystérique et Associés. Un premier, Femme, est paru en 2022 et un deuxième en 2025, Pousser les murs, récit de libération lesbienne. Donc on a décidé de mettre ces deux ouvrages au cœur du book club de ce soir. Donc je vous propose de commencer par un rapide tour de table. Est-ce que vous avez lu un ou les deux? Et surtout, qu'est-ce qui vous a marqué dans les textes de Joan Nessel, Garance ou Anna? Je vous laisse la parole. Alors ce sera Garance.
J'ai pas le choix. Moi j'ai lu les deux. Assez récemment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment parce que il y a à la fois cet aspect documentaire d'une plongée comme ça dans les années 40, 50, 60, oui, qui sont enfin très très éloignées de ce qu'on a pu vivre, et notamment c'est cette image de la file d'attente devant dans les bars du coup lesbiens, mais qui sont illégaux, et donc il y a une personne qui attend devant les toilettes, donc bah, évidemment deux femmes n'ont pas le droit d'aller ensemble aux toilettes, et donc il y a ce truc de chacune a tant de papier cul pour rentrer, et donc ça plus le flicage constant où en fait chaque fois il y a des flics qui arrivent, mais il y a tout un système d'organisation où il y a une lumière rouge, donc leurs potes gays, enfin ils doivent mimer l'hétérosexualité quand les flics arrivent, enfin c'est tout un truc comme ça d'organisation, plus le fait de devoir porter au moins trois attributs féminins même quand t'es une butch, et donc ça veut dire que elle est complètement habillée de manière masculine, et en fait elle aura son petit truc de dentelle sur la chaussette qui va faire qu'elle va pas pouvoir être embarquée par les flics, enfin une toute autre réalité, et en même temps elle a beaucoup de douceur parce que c'était donc c'est quand même super dur et source de souffrance énorme, mais à la fois il y a vraiment cette tendresse et le fait qu'elle accompagne encore aujourd'hui toutes ces mémoires lesbiennes, voilà, je trouve ça hyper beau, et enfin j'aurais mille choses à dire, mais
ouais,
voilà.
Mais on a encore, on fait le tour et après on y revient. Anna, toi, c'est quoi ce qui t'a marqué?
J'ai uniquement lu Femme, et il y a un peu longtemps. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était que de fait, elle parle beaucoup des femmes, mais aussi elle a elle accorde une importance au butch aussi dans la relation femme butch, qui est assez chouette parce que justement il y a eu toute une vague de remise en question de l'identité butch, surtout dans les relations lesbiennes, et aussi de l'identité femme, mais surtout de la réplique de la masculinité envers les butch et tout
de
cela.
De l'hétérosexualité.
Oui. Et du coup, je trouve que c'est assez bien représenté. Et aussi une question de la politisation de l'érotique, que je trouve qui est aussi très centrale, au moins dans Femme, et que j'avais pas trouvé ailleurs. Et bon, non, oui, je l'avais trouvé ailleurs. Mais
dans Sister Outsider.
Oui, absolument. Et aussi dans Stone Butch Plus, un peu.
Mais en fait, j'allais finir ta phrase.
mais oui. Et du coup, ça, je trouve que c'est assez précieux et beau. Et j'ai pas le bouquin super frais dans la tête.
C'est pas grave.
Je pense que je vais pouvoir reparler avec des rafraîchissements.
Mais en vrai, enfin, alors moi j'ai lu que Pousser les murs, mais on faisait des blagues avant l'émission parce que je racontais à Garance et Anna que je confondais tout le temps un petit peu Zami, Stonebridge Blues et Pousser les murs parce que les trois décrivent vraiment de manière historique les dynamiques lesbiennes dans le New York, enfin, un peu historique à New York et aux États-Unis en général. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, Anna. Je trouve que les trois se complètent quand même très bien. Enfin, des amis un petit peu différemment, mais je trouve que Pousser les murs illustre historiquement ce que Stonebridge Blues représente aussi. Enfin, les deux vont super bien ensemble. Je trouve qu'il y a un intérêt à lier les trois. Bref, voilà. Mais moi, oui, ce qui m'a marqué, c'est aussi cet aspect. Enfin, en fait, je trouve ça ce témoignage de toute cette période. Qui est super beau et écrit de l'intérieur. En plus, on sent, je trouve ce qui est hyper touchant dans les textes de John Nessel, c'est on sent que c'est une histoire qu'elle a vécue et qu'elle a à cœur de transmettre.
Ouais. Ouais.
Et quand elle dit, bon, je sais pas du tout où c'est, mais elle parle d'écrire depuis les marges et elle parle, parce que du coup, dans Pousser les murs, c'est un peu plus, j'ai l'impression, des récits sur une compilation de textes sur les luttes lesbiennes, peut-être plus que femmes. Après, j'ai pas lu femmes, donc voilà. Et elle parle aussi des réussites, des luttes gays et ce qui est chouette. Mais du coup, elle dit que elle a quand même peur de perdre cette fait d'être dans la marge. Elle dit « Je sais me débrouiller sur le terrain mouvant de la marge, car c'est un endroit que nous connaissons mieux que ne le connaissent les intrus. Mais j'avance avec beaucoup de prudence sur le nouveau territoire qui nous est proposé. » Et je trouve que ouais, c'est le livre est en soi une archive très belle, quoi.
Ouais. Et ouais, justement, elle insiste beaucoup, ou en tout cas, elle met en scène le caractère subversif, non seulement des dynamiques butch femme, mais aussi le fait que ce soit, elle est issue d'un milieu ouvrier du Bronx. Oui. Elle avait une mère célibataire qui a aussi été travailleuse du sexe à un moment. Elle l'a découvert qu'après en lisant, et c'est son journal, sa mère qui aurait voulu écrire. Enfin, ça aussi, oui. Je trouve ça hyper émouvant dans Pousser les murs. Oui. D'avoir, enfin, il y a quand même quelque chose de socialement situé. Et elle le dit d'ailleurs que quand, dans les années 70, il y a les lesbiennes.
Universitaire.
En fait, elle s'y reconnaît pas du tout parce qu'elle a l'habitude de féminité ouvrière, en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est extrêmement différent dans la manière de, même ne serait-ce que de faire communauté, où elle dit qu'en fait, c'est trop chiant, quoi, d'être avec des.
Ouais.
Et que, enfin, il y a cette spécificité-là qu'elle tient à conserver et que je trouve hyper forte. Et qui est peu aussi mise par l'écrit. Et notamment, elle parle aussi de cette femme dont j'ai oublié le nom.
De ma belle.
Ouais. Qui était donc une lesbienne, là, elle, pour le coup, dans les années 30.
Ouais, qui a je été, crois qui c'est a carrément été la génération d'avant.
Ouais, une des amies de sa mère. Et c'est grâce à elle, en fait, qu'elle a pu faire son coming out auprès de sa mère. Et ouais, et pareil, il y a des pages très belles, aussi d'hommages où elle s'inscrit en fait dans une lignée. Elle a aussi très conscience des dynamiques de race,
oui.
Ce qui n'était pas forcément le cas.
Oui, clairement, oui.
Moi, à son époque. Ouais.
Je trouve qu'elle a une écriture qui est très généreuse, un peu dans le sens où elle exprime beaucoup aussi de gratitude pour les personnes autour d'elle, pour toutes les personnes qui ont été dans sa vie. Je sais pas, on sent que, ouais, même vis-à-vis des butch. Et aussi vis-à-vis des archives, là c'est un peu décousu, mais le fait que ce soit un témoignage aussi de la création des archives lesbiennes, ça m'a, enfin moi je trouvais ça hyper fou. Et on avait vu avec Anna l'année dernière un film qui avait été projeté, c'est un documentaire sur John Nessel et sur les archives. Et dedans, moi, il y a un passage qui m'avait marqué, parce qu'en fait, dans l'histoire des archives lesbiennes, au début, elles n'avaient pas de lieu. Enfin là, maintenant, c'est dans une maison à Brooklyn, mais avant, c'était chez John Nessel. Genre, il y avait les archives dans son salon, littéralement. Et il y avait elle et Deborah Edel, qui était sa compagne à l'époque. Et dans le film, il y a quelqu'un qui témoigne et qui dit « Est-ce que vous vous rendez compte de la générosité que ça implique ?» d'avoir les archives chez elle, parce que ça veut dire que tous les jours, il y avait des inconnus qui venaient chez elle dans son salon pour lire des archives, et ça pendant 15 ans.
Mm-hmm.
Et je sais pas, je me rappelle que j'étais juste en train de pleurer en regardant le film, parce que c'est fou. Enfin,
Ouais, je trouve que, je sais pas, cette générosité pour sa communauté, c'est...
Et puis, je trouve que...
Et j'ai l'impression que la générosité, ça se voit aussi dans sa manière d'écrire, parce que c'est une écriture super accessible. Et je pense que c'est aussi une volonté de toute cette théorie lesbienne super inaccessible auparavant, de la rendre accessible à un monde plus large. Et c'est aussi partie de sa générosité de faire archive et de maintenir genre le mouvement lesbien vivant et accessible à tout le monde. Et du coup, je trouve que ça dresse bien le portrait du personnage aussi.
Et à la fois, enfin, c'est accessible, mais c'est toujours exigeant. Enfin, il y a jamais de gras en trop. Enfin, c'est vraiment quelque chose de qui va droit au but et qui a, enfin, du coup, de ce fait, une forme peut-être pas poétique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui emporte et qui et le fait qu'il y ait comme ça ce va-et-vient entre des écrits plus de l'ordre de l'essai. Plus documentaire et puis après des récits érotiques. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut voir, enfin que cette palette là, en fait, elle se retrouve finalement dans les archives parce que c'est à la fois le collectif, comme ça, ces luttes vraiment politiques et cette intimité qui est tout aussi politique, mais qui est racontée avec ce que ça implique en fait émotionnellement. Du vécu en fait, et que moi j'adore après il y a Dorothy Allison qui l'a fait, Audre Lorde et tout ça, mais de théoriser presque par le vécu et de jamais s'arrêter dans le monde des idées en fait, et de toujours revenir à tout le désir.
Je veux dire un petit truc que j'ai pas lu Pousser les murs, mais en fait en vous écoutant aussi je réalise que c'est moi ce qui me touche aussi, et notamment des scènes comme Stonebridge Blues ou autre, c'est tu sens que c'est des gens qui ont eu la volonté de laisser des traces, qui avaient conscience que leur vécu n'était pas que à elles en fait, et que le don c'est de le laisser en fait, parce que ça a beau être des choses qui semblent banales peut-être pour d'autres personnes, mais en fait pour nous ça l'est pas. Le besoin de se retrouver en fait, c'est magique, c'est tout ce dont tu as besoin en fait.
Et c'est vraiment aussi la vocation qui guidait la création des archives. Je suis allée sur leur site tout à l'heure et je crois que c'est à la fin du livre, j'ai pas le temps de lire le manifeste des archives, mais c'est des archives communautaires, et c'est vraiment l'idée, c'est de rassembler des témoignages des vécus et des existences, et c'est pas les archives départementales avec des petits dossiers bien classés, et c'est aussi un lieu public.
Oui, comme disait Margot la dernière fois, il y a aussi des Marcel debout.
Ouais, c'est ça. Tu trouves des photos de famille, c'est vraiment, et même dans le livre, Jeunesse, elle raconte que des fois, elle se faisait appeler parce qu'il y avait des cartons dans la rue qui avaient été balancés de familles qui découvraient l'homosexualité de leur enfant à la mort en fait de l'enfant de cette personne, et qu'elle se retrouvait à traverser New York en courant pour aller récupérer le camion de carton d'archives dans le caniveau parce que sinon c'était perdu. Et ouais, je trouve que c'est trop beau même les archives en soi, c'est un récit de lutte quoi. Mais malheureusement, en fait, on n'a pas le temps de continuer à en parler. Merci d'avoir écouté Sally Quasi à la fin de cette émission. Merci à Noah d'avoir été avec nous. Merci à Garance et Anna pour la préparation, la réalisation et la participation à cette émission. Et merci à Margot pour sa chronique. Juste après, c'est Absence sur Radio Campus Paris. Sally Quasi, c'est une émission à retrouver un lundi par mois sur le 93.9 FM, sur le DAB+, Canal Campus en Ile-de-France, sur le site internet de Radio Campus Paris et sur toutes les plateformes de podcast. À dans un mois, et en attendant, bonne lecture.